Habitantes et habitants de l'Alsace, menacés par la pollution chimique et radioactive, bonsoir. Après le succès de notre émission Zéro du 4 juin, nous avons décidé de continuer à diffuser chaque samedi soir à 19h45 sur 101 MHz en modulation de fréquence. La semaine dernière, l'émission était très mauvaise, mais vous comprendrez que des amateurs comme nous n'ont ni les moyens financiers, ni les possibilités techniques des stations de radio. Qu'importe, nous bricolons pour que ça marche. Nous espérons que bientôt, vous pourrez tous participer à nos émissions. Car Radio Verte Fessenheim doit être votre radio, la radio de toute la population, la radio de lutte contre le programme électronucléaire et la surindustrialisation de la vallée rhénane.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyons actifs avant d'être radioactifs, proclamaient joyeusement les militants antinucléaires qui, le 4 juin 1977, créaient dans le Haut-Rhin Radio Verte Fessenheim. C'était au temps du plan Messmer qui, après le premier choc pétrolier de 1973, développait le parc nucléaire français. C'était aussi au temps du monopole d'État sur les ondes. Les radios pirates réussirent à l'écorner, mais la radio verte, qui dénonçait aussi la pollution par les mines de potasse ou la disparition de l'identité alsacienne, ne parvint pas à empêcher la construction de la centrale de Fessenheim. Elle est démantelée aujourd'hui, après bien des aléas politiques. Vous lirez cette histoire, et bien d'autres encore, dans un formidable album illustré qui donne des couleurs à l'histoire des débats et des combats pour l'environnement, des mines de cuivre d'Ashio, dans le Japon des Meiji, jusqu'aux luttes du Larzac, les yeux brûlés par le smog londonien à l'époque victorienne ou dessillés par le combat de Chico Mendes, assassiné en 1988 pour avoir défendu l'écologisme du pauvre au Brésil. C'est un album, oui, comme un album de famille, celle des terriens qui s'éprouvent en une communauté de destins et de dangers. Comme un album de photos aussi, que l'on feuillette en se découvrant plus vieux qu'on ne le croit et se demandant si nous avons bien les mêmes souvenirs. On en parle dans Histoire 2 avec l'un des co-auteurs de cette histoire des luttes pour l'environnement, l'historien Charles-François Matisse, bientôt rejoint par nos deux sociétaires du jour, Adila Benejaizou et Ludivine Bantigny. Qu'importe, nous bricolons pour que ça marche. Charles-François Matisse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous publiez donc, avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, Steve Agimon et Alexis Vrignon, une histoire des luttes pour l'environnement aux éditions textuelles. Ce livre, en fait, pourfend deux idées reçues. La première veut croire en l'existence inébranlable et ancienne d'une foi collective en l'idée de progrès qui nous aurait permis, mais nous, qui ça nous, c'est bien le problème, qui nous aurait permis d'assujettir la nature. Et la seconde proclame que la prise de conscience des périls écologiques est récente. Or, on débat et on combat depuis bien longtemps et de bien des manières dans le monde. Aussi, votre histoire des luttes environnementales en longue durée, vous l'avez voulu, mondiale, chorale, mais aussi discontinue. C'est bien ça ?
Tout à fait. Notre objectif était de casser ce grand récit de la modernité qui évoquait, comme vous le disiez, cette espèce de consensus industriel qui aurait été brisé dans les années 1970 avec une prise de conscience brutale des méfaits environnementaux. Nous voulions au contraire montrer l'ancienneté des questionnements, l'ancienneté des luttes, pour montrer que finalement, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est le résultat de choix, de plusieurs choix qui se sont évidemment étalés au cours de ces trois siècles, et qui obérait en fait des possibles non advenus. Je reprends cette expression justement Alexis Vrignon et François Jarrich dans un autre ouvrage, que c'est une expression que j'aime beaucoup. Il y avait des possibilités, il y avait des voies sociales autres qui étaient proposées, il y avait des résistances aux mouvements d'industrialisation qui sont donc anciennes et qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été suivies et qui expliquent finalement le monde et l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est cette histoire longue en fait des luttes qu'on a voulu mettre en avant et ces débats aussi très anciens.
Oui, parce que votre livre témoigne en somme de l'extension du domaine de la lutte environnementale, y compris d'ailleurs du point de vue historiographique, parce que c'est moins l'histoire environnementale comme discipline que le tournant environnemental de la discipline tout entière, hein, finalement, qui enrichit l'histoire. Et vous-même, Charles-François Matisse, vous êtes un historien d'abord de l'idée de nature, de la préservation de la nature comme projet politique, et c'est un premier fil rouge d'ailleurs qui parcourt le livre, je dirais, de Rousseau à la forêt de Fontainebleau, qui, dont on apprend qu'elle fut en 1861 l'un des premiers espaces protégés au monde, en passant par les grands parcs américains qui engagent une autre idée du sauvage, ou les parcs africains qui, eux, évidemment, parlent de l'occupation coloniale du monde. Donc ça, c'est un premier fil, c'est-à-dire ces espaces protégés.
Tout à fait. C'était même d'ailleurs une de nos ambitions qui n'a pas été réalisable finalement, qui était de suggérer par un jeu de couleurs à travers le livre quelques fils rouges justement, dont celui de la protection de la nature. Il y en aurait eu un autre sur les luttes contre les pollutions. Enfin, il y avait comme ça plusieurs entrées, disons, dans l'ouvrage et dans cette thématique. Il est évident que cette question de la protection de la nature, elle est au cœur de certaines des premières luttes pour l'environnement, pour diverses motivations. D'abord des motivations d'accès au quotidien, disons, pour des gens qui étaient privés par l'urbanisation, l'industrialisation de ces espaces verts, pour des raisons patrimoniales, c'est le cas de la forêt de Fontainebleau justement, ou d'autres espaces à la fin du 19e siècle. Puis pour des raisons bien sûr écologiques, à partir disons de l'entre-deux-guerres essentiellement.
Oui, mais la nature, effectivement, à vous lire, on comprend qu'elle est dans les milieux protégés. Hein, la loi pour la protection des sites et monuments naturels date en France de 1906, mais elle est aussi dans les villes. Et c'est d'ailleurs un autre de vos sujets de recherche, Charles-François Matisse. Vous avez publié en 2017 avec Emiliane Pépi un beau livre qui s'appelle La ville végétale. Et on trouve d'ailleurs dans le livre l'évocation de la guérilla jardinière à New York en 1973, par laquelle on réensemence les friches, les terrains vagues pour en faire des jardins communautaires. Et c'est aussi ça, je dirais, l'histoire des luttes environnementales. C'est une histoire interstitielle qui crée des espaces autres, en marge de la ville, de la grande histoire. On peut en fait lire votre livre comme une sorte d'herbier des luttes.
C'est une belle métaphore, oui. La guérilla jardinière me paraissait une entrée intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, elle occupe un terrain qui est celui de notre quotidien, qui est la ville, où la majorité de l'humanité aujourd'hui vit en ville. Donc c'est évidemment le premier lieu où ces luttes et ces combats peuvent avoir lieu. Elle a l'intérêt aussi de venir du bas, en quelque sorte. C'est une lutte par le bas, à s'éclater, en quelque sorte, et qui est aussi fruit, même si elle est née dans les années 70, elle est réactivée dans les années 2000, grâce aux réseaux sociaux également et par des organisations qui sont très diverses selon les lieux et avec en plus des modes opératoires qui sont assez drôles parce qu'on crée des espèces de bombes à graines avec de l'argile et des graines qu'on jette dans des terrains vagues. Et puis surtout, moi, il y a ces fameux graffitis de mousse que j'aime beaucoup, où en mélangeant de la bière avec du sucre et de la mousse, vous badigeonnez ensuite un mur en dessinant ou écrivant ce que vous voulez. Et si le mur n'est pas trop exposé à la lumière et un peu humide, eh bien quelques semaines après, vous avez un dessin en mousse. Donc il y a des affirmations comme ça de reprise en main en quelque sorte de l'espace urbain par ces militants.
Qui passe aussi par l'art, par la beauté du geste artistique, mais parfois évidemment la prise de conscience qui est précoce et générale, c'est celle d'une situation qui est beaucoup plus dramatique. C'est une autre de vos spécialités, Charles-François Matisse, c'est l'histoire des paysages industriels et en particulier anglais. Alors évidemment Londres au 19e siècle, vous publiez d'ailleurs chez Vendémiaire La civilisation du charbon. Et il y a plusieurs moments où on retrouve ce paysage. En 1858, le rejet massif des immondices dans la Tamise qui provoque la grande puanteur de Londres. Et 20 ans plus tard, on commence à ressentir les effets dévastateurs de la grande pollution industrielle, le smog qui fait planer la mort dans les nuages, jusqu'à cette terrifiante mortalité en 1852, 8000 londoniens qui meurent étouffés du smog.
Oui, cette histoire, elle était indispensable, bien sûr, dans notre projet, parce que c'est bien entendu le monde industriel et urbain qui est porteur de nombre de maux contre lesquels luttent les personnes que nous présentons, avec parfois, de fait, des moments tout à fait terrifiants qu'on a du mal à imaginer encore aujourd'hui. C'est vrai que le smog de Londres, ce brouillard donc qui mélange, enfin, smog, donc c'est la contraction de smoke, la fumée, et de fog, le brouillard, donc qui est un phénomène météorologique spécifique à Londres, est assez incroyable. Incroyable quand on voit les témoignages de l'époque, des années 1870-1880, on ne voyait pas à un mètre, où les gens tombaient dans la Tamise parce qu'ils ne la voyaient pas et se noyaient, où évidemment les maladies pulmonaires se multipliaient. Et ce qui est frappant, c'est de constater l'inaction, en quelque sorte, des gouvernements et des autorités publiques, puisque, comme vous le dites, jusqu'en 1952 encore, on a donc cet effroyable brouillard de Londres, donc retracé dans la série The Crown, et qui fait... Alors, au départ, on pensait qu'il avait fait plutôt 4000 morts, il en a fait plutôt entre 8 et 12 000, et enfin, il a abouti, en 1956, 4 ans plus tard, à une loi.
En tout cas, on prend conscience à vous lire, Charles-François Matisse, qu'il y a une précocité des prises de conscience et des mobilisations. Et le meilleur exemple, c'est peut-être l'amiante. Écoutez ce qu'en disait le docteur Inter en 1976.
Dans une civilisation qui se préoccupe d'améliorer le confort de notre vie quotidienne et de diminuer les risques d'accidents que nous fait courir le modernisme, le paradoxe est monnaie courante et c'est le cri d'alarme que lance le professeur Selikov de New York, aujourd'hui à Paris. Attention, dit-il, un danger nous guette dont nous ne prenons pas conscience suffisamment. Ce danger s'appelle l'amiante, fauteur de cancer pratiquement inguérissable. Des accidents graves sont déjà enregistrés en France. Des cas de cancer sont signalés. À l'université, par exemple, de Jussieu, des cas ont été très précisément relevés. Et il faut bien le dire, docteur Inter, il s'en trouve plus qu'on ne le croit généralement dans notre environnement.
On trouve l'amiante actuellement sous forme de plaques et sous forme de particules pulvérisées dans les immeubles. Je lève les yeux et je vois que la maison de Radio France est particulièrement gâtée à ce point de vue, parce que ici vous avez des plaques d'amiante qui commencent à se dégrader un peu partout. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est que le taux de particules a une relation directe avec le risque d'un cancer.
Ah, c'est la consternation derrière la vitre. Là, toute l'équipe de France Inter se dit on est gâté. Mais non, vous êtes simplement gâté. Tout va bien. Tout va bien. Enfin, oui et non, parce que ce que vous montrez dans ce livre, Charles-François Matisse, c'est que l'amiante, qui était le produit phare de l'industrie de l'entre-deux-guerres, et la maladie qu'elle provoque, l'asbestose, qui est indemnisée à partir de 1947, suscite en fait un siècle de controverses. Et un siècle exactement, puisque on apprend à vous lire que ces effets nocifs sont dénoncés par Étienne Auribeau, inspecteur du travail à Caen, en 1906, et que l'amiante est interdite en France en 1996.
96, oui, tout à fait. C'est un siècle d'attente. C'est assez fréquent, finalement, de constater cela. C'est-à-dire que les alertes, encore une fois, sont souvent très précoces, souvent par des médecins, mais très vite, elles sont contestées soit par des industriels, bien sûr, qui n'ont pas très intérêt à ce que ce type de maladie et de contestation ait lieu, soit par d'autres savants, des scientifiques, qui mettent en doute certains ressentis des victimes, des ouvriers ou des médecins qui les soignent, et qui essaye au contraire donc d'encadrer finalement les usages de ces produits polluants, amiante ou autres. Et il faut donc des fois des luttes féroces, longues, des interventions des États pour que finalement, au bout de bien des décennies et bien des combats, on arrive à limiter ces produits.
L'amiante, le plastique aussi. On apprend que dès les années 50...
Oui, dans les années 50 aussi, les bouteilles, on commençait déjà à proposer du recyclage. Les bouteilles de plastique déjà étaient critiquées pour les dégâts qu'elles provoquaient. On n'avait pas conscience, bien sûr, des microparticules de plastique qui aujourd'hui se retrouvent partout, mais déjà on percevait, et il y avait d'ailleurs des résistances même du côté des industries de bouteilles en fait, vis-à-vis de ce nouveau produit en fait.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Adila Benedjaizou, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on préparait cette émission, vous m'expliquiez que lire ce livre, c'était comme faire une psychanalyse. Alors là, il faut nous expliquer.
En feuilletant ces pages, en regardant la très riche iconographie de cet ouvrage, j'ai eu l'impression de faire une cure psychanalytique.
Mais laquelle ? Alors quoi ? Expliquez-nous pourquoi ?
Parce que, en fait, les mots comme Bhopal, Superphénix, Fessenheim, Plogoff, Lamocco-Cadiz, ils résonnaient en moi comme des mots qui avaient toujours été là, mais dont j'avais oublié le sens. Et un peu comme dans une psychanalyse, je relisais chacun de ces épisodes avec une interprétation nouvelle, et j'en tirais une analyse nouvelle de mon passé, et je revisitais mon déni environnemental.
Allez, le déni environnemental, c'est après ça. We are the younger, the hunger. We show the heroes. Feel. Alright, one more time. We show them heroes. Feel. We are the younger and the hunger. We show them heroes. Feel. We are the younger and the hunger. Holy water. Crying at the altar. In your desire.
no. They ain't really broke us. They can never break our story now. Nah. My son showed them passion. Your history walked through them golden lines. Your blood carries diamonds. When they fought, they cleared our spirit away. We are the reincarnation.
My spell made up.
Would work your mouth against this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I enclose magic.
Toujours en compagnie de Charles-François Matisse, co-auteur avec Anne-Claude Ambroise Rendu, Steve Agimont et Alexis Vrignon, d'une histoire des luttes pour l'environnement, et avec le concours de nos deux sociétaires du jour, Adila Benjaizou et Ludivine Bantigny. Nous feuilletons l'album, ou alors on a dit l'herbier, d'accord, des débats et des combats qui, depuis le XVIIIe siècle, agite la question environnementale, et on s'étonnait tout à l'heure de la grande précocité de certaines enquêtes. Ludivine Bantigny, allez, on commence, si je vous dis 1821.
Oui, 1821, c'est la première enquête sur le changement climatique liée à la déforestation, puisque le bois est évidemment un combustible utile à cette première phase de l'industrialisation. Mais finalement, cette précocité très étonnante, parce que comme le soulignait Patrick Boucheron tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, on a toujours le sentiment que tout naît dans les années 1970, alors que voilà, il y a une densité historique, un long héritage. L'amiante, hein, voilà, 90 ans de combat avant que son usage soit interdit, jusqu'au plastique. Ça m'a aussi surprise de découvrir que dès les années 1950, il y avait déjà des remises en cause des usages du plastique.
Oui, en 1821, donc déjà, c'est ce que montre Locher et Fressos dans Les Révoltes du Ciel, hein, déjà une politisation, en somme, de la prise de conscience du changement climatique.
Oui, alors bien sûr avec des différences par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les raisons de cette commission sont certes liées à la déforestation, mais aussi en fait à l'éruption du volcan Tambora qui avait entraîné en 1815 ce qu'on appelait l'été sans soleil en 1816, et ensuite un refroidissement en fait pendant quelques années qui avait beaucoup inquiété les autorités, d'autant qu'on craignait beaucoup à cette époque-là un refroidissement de la Terre justement, beaucoup plus qu'un réchauffement. Et on lie à cela probablement donc à la question de la déforestation, d'où cette enquête de 1821. Donc on a eu à cœur effectivement de replacer à la fois donc toutes ces inquiétudes environnementales dans le long terme, tout bien sûr en les contextualisant, en montrant à chaque fois ce qui les distingue de nos propres préoccupations et ce qui annonce nos soucis d'aujourd'hui. Donc on retrouve pour les plastiques, on l'a évoqué auparavant dans les années 1950, on le retrouve pour les pollutions industrielles, pour la défense de la nature, pour énormément de thèmes en fait, et même pour la protection des animaux qu'on a assez peu évoqué,
oui.
Mais Brigitte Bardot n'était pas toute seule à défendre les bébés phoques.
Il n'y a pas que Brigitte Bardot, il y a aussi les grands animaux justement en Afrique, la question coloniale, hein, Ludivine, oui. Et puis c'est intéressant d'ailleurs les animaux aussi, on peut en parler comme ça, parce que qui est-ce qu'on accuse de violence contre les animaux?
Oui, ça aussi ça m'a beaucoup frappé dans ce bel ouvrage, c'est en fait la complexité de ces luttes environnementales et parfois qui crée une sorte de reconduction des dominations sociales, des dominations coloniales, bien évidemment. Et donc, il y a en effet deux exemples qui me viennent à l'esprit à ce sujet. C'est d'une part cette société royale contre la maltraitance des animaux en Grande-Bretagne, qui entend surtout faire la leçon et la morale aux classes populaires, supposément intrinsèquement violentes et maltraitantes à l'égard des animaux. Donc, c'est quand même une manière de se saisir de la cause animale pour asseoir sa domination sociale dans ce cas. Et puis évidemment, il y a le grand exemple de la colonisation qui a été également travaillé notamment par Guillaume Blanc dans ses magnifiques travaux sur les parcs naturels, hein, l'histoire environnementale de la nation, et dont vous rendez très bien compte dans l'ouvrage, puisque en gros, les colons accusent les populations autochtones de maltraiter leur environnement, de maltraiter en particulier les espèces animales, la faune, et en même temps profitent de cette accusation pour s'approprier les terres, les spolier, alors qu'on voit très bien que dans beaucoup de domaines, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore, qu'il s'agisse aussi de la déforestation, ça correspond tout à fait au moment de la colonisation et que la responsabilité elle est bien du côté des colons.
Charles-François Mathis.
Il est clair que en retraçant donc cette histoire, on a voulu montrer que, outre cette ancienneté des luttes, qu'elle se situait dans un cadre de choix et donc de rapport de force. Il est évident que, encore une fois, les résistances qu'il y a pu avoir à la colonisation, à l'industrialisation, se sont heurtées donc à des puissances, à des dominations, qui s'expriment, comme vous le dites, au niveau social dans les pays européens vis-à-vis des catégories populaires. Donc vous évoquiez cette Société royale de protection des animaux de 1824 qui et on retrouve l'équivalent en fait au moment de la protection des animaux en France avec la SPA, où les premières actions en fait visent à empêcher la violence animale dans l'espace public, parce que cette violence dans l'espace public qu'on estime être le fait justement de classe sociale plutôt populaire témoignerait en fait de leur violence intrinsèque et pourrait propager en fait cette violence qui ensuite pourrait bien sûr s'exprimer s'exercer sur d'autres personnes cette fois et pas sur des animaux. Pour ce qui est de la colonisation, le phénomène est à peu près le même. Il s'agissait, et ça c'est vrai aussi bien pour les animaux que pour les espaces boisés, de protéger des espaces, d'en exclure les populations autochtones, parce que soit elles chassaient mal les animaux en les faisant souffrir, contrairement bien sûr, soi-disant, aux chasseurs qui les tuaient directement quand ils étaient doués, soit qui géraient mal leur forêt ou leurs espaces communaux et entraînaient la désertification. Donc on les excluait de ces espaces et de leurs pratiques, donc les plongeant souvent dans la famine ou dans des grandes difficultés pour les protéger, en faire des réserves dans lesquelles on pouvait exercer un pouvoir sur les plantes ou sur les animaux.
Vous avez compris qu'avec cet ouvrage, on fait le tour du monde. Et Adila Benedjaizou, ce qui vous a intéressé, vous, entre autres, c'est l'histoire de la maladie de Minamata au Japon, qui fit ses premières victimes dans l'immédiate après-guerre. On écoute une archive, c'était en 1959, et on en parle.
Un fléau mystérieux s'est abattu sur Minamata, le petit port de l'île Nippon de Kyushu. Une étrange maladie nerveuse s'était répandue depuis peu dans la famille des pêcheurs. Finalement, on s'avisa que l'usine de produits chimiques établie dans le village jetait à la rivière ses eaux polluées. D'une seule voix, les pêcheurs accusèrent l'usine. La faculté intervint et on fit une expérience. On badigeonna un poisson avec les eaux de rebut et on l'offrit à un chat. Le résultat ne suit pas attendre. La colère des pêcheurs ne suit pas attendre non plus. L'usine qui en porte les marques est maintenant fermée. Les bateaux ne sortent plus, personne ne cherche plus à prendre des poissons qu'on ne peut ni vendre ni manger. Et Minamata pleure ses 29 morts et des centaines d'innocentes victimes.
Adila Medenchaizou.
Cette très belle archive qu'on vient d'entendre, elle est intéressante, mais elle ne rend pas la durée de la lutte qui a eu lieu à Minamata et qui est une lutte très intéressante parce que justement, il y a eu une multiplication des acteurs de cette lutte qui ont eu souvent des intérêts divergents et qui ont fini par s'unir parce que en premier lieu à Minamata, donc dont les eaux sont empoisonnées par le mercure rejeté par l'usine Chisso, ce sont les pêcheurs qui souffrent de la perte du fruit de leur pêche. Ensuite, ce sont des gens qui tombent malades. Et en fait, ces pêcheurs et ces malades, ils vont pas du tout être soutenus, voire un peu ostracisés par les ouvriers de l'usine Chisso qui voient leur outil de travail critiqué. Et c'est que après 10 ans de lutte, au début des années 60, et après un fort conflit social, que les ouvriers de l'usine vont même faire leur mea culpa, rejoindre la lutte des pêcheurs et des malades, et ainsi obtenir, en 68, une déclaration d'une maladie de Minamata. On reconnaît enfin les méfaits, et je trouve que ça raconte très très bien la façon dont on obtient quelque chose quand on arrive à sortir justement de des endroits d'où on parle et de nos rôles respectifs.
Ludivine Bantigny, c'est une histoire, on l'a vu, de maladie, mais aussi de massacre, mais aussi de martyr. Donc il y a de Charleroi au Brésil, Chico Mendes. Enfin, c'est aussi cette gravité-là de la grande histoire qui est convoquée dans le livre dont on parle.
Oui, c'est-à-dire que c'est un livre qui est à la fois beau par l'enthousiasme, mais parfois la joie, parfois même les gestes d'une vraie beauté qui sont prodigués, qui sont déployés par celles et ceux qui luttent pour l'environnement. Je pense par exemple à ce qui se passe en Inde, Chipko, ces femmes singulièrement qui enlacent les arbres pour les protéger de l'abattage, mais il y a aussi beaucoup de violence, et cette violence, elle traverse le livre, elle lui est aussi structurelle, c'est-à-dire qu'on a de véritables massacres, des répressions très violentes. Charleroi, 1852, en effet, ce sont des habitants de la région qui protestent contre les fumées acides, les fumées chlorhydriques, les acides sulfuriques, et donc des pluies acides. Et là, bon, la répression fait 2 morts. Et puis, quelques années plus tard, 200 morts lors d'un rassemblement de paysans, d'ouvriers, mais aussi de propriétaires fonciers en Espagne, dans les mines de Rio Tinto. Et là, c'était des gisements de pyrite qui étaient calcinés en plein air, ce qui était interdit, notamment en Grande-Bretagne. Et là, il s'agissait d'une exploitation de la mine par des Allemands, par un consortium germano-britannique qui utilisait sans vergogne justement cet usage de la calcination qui était interdite ailleurs, et donc un rassemblement gigantesque des milliers de personnes et 200 morts. Donc voilà, cette violence jusqu'à en effet l'assassinat de Chico Mendes au Brésil. Voilà, c'est quand même très important de le souligner parce qu'il n'y a pas que cette beauté, cet enthousiasme et cette force des luttes.
Très clairement, on a à la fois, comme vous le dites, une beauté dans, ne serait-ce que dans l'inventivité aussi de slogans, de logos, etc., qui ont permis d'ailleurs cette magnifique iconographie qu'on doit à Caroline Pochois et qui a fait effectivement ce travail remarquable. Il y a donc cette beauté, et c'est vrai que je suis content que vous parliez du mouvement Chipko.
Parlez-en, parce que ça, je sais que vous y étiez très, très sensible.
Oui, j'y étais sensible parce que c'est un mouvement qui naît en Inde, dans l'Uttar Pradesh, en 1973. Et par lequel donc des femmes, des villageoises, enlacent des arbres pour empêcher qu'ils soient coupés dans des opérations de déforestation. Et le geste est d'une telle simplicité et en même temps d'une telle beauté justement, et il porte en lui une telle charge émotive qu'il fait beaucoup parler de lui et qu'il est très fort, qu'il peut être reproduit aussi facilement à travers le pays et le monde. Ce mouvement finit par porter ses fruits puisque en 1980 Indira Gandhi décide d'arrêter les opérations de déforestation. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans ce mouvement, c'est que il s'adresse à une nature quotidienne, c'est-à-dire que ces femmes luttent pour défendre leur vie ordinaire, leur vie de tous les jours, et un accès à une nature qui est nourricière. Il ne s'agit pas de défendre des grands paysages, des beaux espaces qui doivent être défendus aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut détruire Yellowstone, mais il y a aussi là un lien beaucoup plus fort, en fait, parce que quotidien, parce que nourricier, avec une terre, un espace vert qu'on essaie de protéger.
Je disais, Charles-François Mathis, que votre livre était discontinu, et c'est vrai, c'est important de défaire ce grand récit du progrès, mais en même temps, il marque un tournant environnemental autour de ces années-là, 72, 73, 74, on en parle depuis plusieurs minutes. Et écoutez, René Dumont, c'était le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en France, et c'était en 1974.
Je ne suis pas un candidat doux rêveur. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne, c'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent. Mais nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là, parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. On espérait tirer de ces eaux de la mer des ressources importantes. On pensait que ce serait le grenier de l'humanité de demain, ces eaux, ces estuaires, ces plateaux continentaux. Ce sont aujourd'hui nos poubelles.
René Dumont, c'était un agronome, hein, un agronome de terrain, spécialiste des pays qu'on appelait alors le tiers-monde. Et bah, il fait 1,33% à l'élection présidentielle. Et pourtant, on s'en souvient. Hein, c'est votre psychanalyse, hein, Adila Benedjaïzou. C'est un nom dont on se souvient parce que d'une certaine manière, peut-être, enfin, je la pose cette question à vous toutes et tous, bah, c'est justement ces années 70 qui polarisent et qui politisent la lutte écologique. Alors, il y a le mouvement Chipko en Inde, il y a le massif de la Vanoise, il y a le plateau du Larzac, c'est effectivement les années radio ouvertes Fessenheim, le journal La Gueule Ouverte. Enfin, il y a quand même un bouquet à ce moment-là d'énergie et de mobilisation, Charles-François Matisse.
Oui, très clairement, il y a une cristallisation qui s'opère. C'est pour ça, pourquoi on a voulu proposer beaucoup d'entrées en fait sur cette période. Une cristallisation qui se fait autour d'une politisation du mouvement. Très clairement, on le voit avec Dumont et avec la naissance des partis écologistes, etc. Qui se fait aussi autour d'une critique peut-être plus verte de la modernité. Autour notamment du nucléaire, très clairement, qui contribue à cette cristallisation des luttes. Et puis aussi peut-être à dans le cadre des mouvements contestataires de la fin des années 60 aussi, un rejet globalement d'une société industrielle et des propositions de sociétés alternatives et de communautés alternatives.
Alors on avait un débat en préparant cette émission, c'était savoir si ce livre était finalement optimiste ou pessimiste, si ce qui dominait à la fin, c'était finalement la terreur devant ce que vous appelez les semeurs de doute, c'est-à-dire tous les lobbies qui, hors champ, vont quand même empêcher ces luttes environnementales d'être menées à bien, ou s'il y a quand même une énergie qui l'emporte. Adila, qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que ça traverse tout le livre et que c'est un peu l'éternel débat des luttes écologiques ou des gens qu'on appellerait aujourd'hui des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire, est-ce qu'on annonce l'apocalypse, auquel cas les gens sont paralysés de terreur et ne font rien, ou est-ce qu'on fait les choses gentiment et auquel cas les gens ne s'inquiètent pas et ne font rien. Et ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'il y a de la beauté, de la joie et aussi de la violence. On a les deux.
Et puis Ludivine Bantigny, il y a aussi une boucle qui est bouclée, parce qu'on commence par la lutte contre les communs, évidemment, la lutte pour les communs, contre les enclosures en Angleterre, et puis on termine quand même sur le concept d'anthropocène.
Oui, j'ai trouvé que finalement tout ça montrait que à la fois, bien sûr, il y a une histoire qui n'est pas purement linéaire, bien évidemment, mais il y a une très forte contemporanéité, y compris d'un passé éloigné. Par exemple, en effet, ces communs, ces communaux qui étaient toutes sortes de terres et de biens qui étaient cultivés en usufruit, dans une sorte de propriété d'usage, de propriété collective et non pas de propriété lucrative. Bon, c'est un thème dont on sait qu'il revient beaucoup aujourd'hui et notamment dans toutes ces discussions qui entremêle une histoire sociale et une histoire environnementale sur l'anthropocène et donc comment sortir de l'anthropocène. On avait eu d'ailleurs, lors d'une précédente émission, la discussion aussi avec Thomas Piketty sur anthropocène, capitalocène, etc. Donc, moi, je pense que face à ces semeurs de doutes que vous évoquiez, Patrick, tout à l'heure, et qu'on voit bien aussi dans le livre, hein, c'est fascinant de voir un chaptal qui prenait les vertus des usines parce que des infectante jusque à l'appel de Heidelberg avec ses prix Nobel qui nous expliquent d'ailleurs financés un peu par les industriels de l'amiante et du tabac que ceux qui lancent l'alerte sont des semeurs d'apocalypse en fait.
C'était en 1992.
Sont des fabricants d'ignorance. Eh bien il y a des résistances qui nous aident aujourd'hui. Je trouve cette histoire elle nous aide à garder la force précisément.
Donc au fond, Charles-François Matisse, et ça sera notre dernière question, c'est un choix politique que de faire un beau livre sur cette question.
C'est un choix politique et personnel, et c'est aussi un message d'optimisme, et je suis heureux que vous y trouviez de la force, parce qu'en montrant qu'il y a des choix qui n'ont pas été faits, ou plutôt des voix qui n'ont pas été entendues, et en les faisant, en les remettant en fait à l'oreille des gens, et en les révélant, on espère peut-être proposer d'autres avenirs possibles.
Et on peut redire ce qu'on disait à Radio Verte Fessenheim, qu'importe, nous bricolons pour que ça marche. Merci à toutes et à tous. Merci Charles-François Matisse, merci Adila Benedjaïzou, merci Ludivine Bantigny.
Merci beaucoup.
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Antoine Teboul. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, on passe notre tour, ce sera les jeunes et la présidentielle. Donc on se retrouve le 6 mars pour parler de saga islandaise avec Thorf Tulinius. Bon dimanche sur France Inter.